Tout à l'heure, j'ai dit, bon, on va parler d'abord de l'itinéraire de Philippe Sollers. Je me dis, mais ça n'intéresse personne. Eh bien, non. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois pas que tout le monde soit au courant de tout ce qui s'est passé autour et grâce à Philippe Sollers. Donc, on va quand même faire, si tu veux bien, un petit voyage biographique. Hein, un petit voyage biographique pour commencer du côté de la Gironde. Donc, voici un enfant de la Gironde, à Lens.
Un cadet de Gascogne.
Un cadet de Gascogne.
Prêteur et menteur, sans vergogne.
Ah oui, je pense que toi aussi, tu as adoré le Cyrano avec Depardieu, celui-là aussi. Et vous, écoute, non, il y en a d'autres.
Écoute, voilà. Alors, il faut relire un peu Les Trois Mousquetaires, qui est une passion d'enfance, et deviner, parmi les quatre, celui qui me correspond le mieux. Toi, quel est ton mousquetaire préféré?
Moi, j'étais l'autre mousquetaire. Quand j'étais gamin, j'espérais que Dumas ait fait un mousquetaire noir. Moi, j'étais Saint-Georges, donc j'étais l'autre mousquetaire.
Bon. Voilà. Alors, il y en a un qui s'appelle Aramis, qui est très, très, très bizarre, qui me plaît bien. Mais en tout cas, voilà. La Gironde, la Gascogne, bien sûr. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'apprendre que désormais, les Chinois sont devenus les premiers importateurs mondiaux de vin de Bordeaux. Non seulement ils se poivrent au cognac, tu sais comment s'appelle le cognac qu'ils préfèrent ? Le Louis XIII.
Oui.
Et alors, ils vont apprendre comme ça qui était Louis XIII. Et puis lire Alexandre Dumas, etc. Mais, par exemple, je pourrais désormais m'inscrire pour faire des tournées de conférences tout à fait intéressantes en Chine, à Shanghai notamment, pour parler du vin de Bordeaux. Comme les Chinois viendront aussi bientôt, contrairement à ce que disait Céline, qui les arrêtait en Champagne, tu sais, les Chinois, ils disparaissent dans le Champagne. Eh bien non, c'est le vin de Bordeaux qui envahit la Chine. Et je trouve ça très satisfaisant avec le temps.
Oui, c'est peut-être se réconcilier avec le Sollers Mao, mais on en reparlera, puisque là, tu avais, il y avait un peu d'avance, en fin de compte, sur l'arrivée des Chinois.
C'est Mavin, pas Mao.
D'accord. Alors donc, cette Gironde, et puis alors cette éducation. Alors, il y a déjà quelque chose qui est intéressant, c'est ton nom, c'est-à-dire que tu as choisi seulement en 1957 de t'appeler Sollers. Hein.
Alors, à l'époque, la majorité était à 21 ans, et donc je publiais un premier livre qui ne plaisait pas beaucoup à ma famille, qui ne voulait pas que je porte... D'ailleurs, j'ai bien fait de changer de nom, parce que c'est un nom beaucoup trop beau, qui m'aurait attiré que des ennuis, comme j'en avais à l'époque.
Joyot.
Je m'appelle Philippe Joyot, avec un X, s'il vous plaît. Et ça a été une persécution de tous les instants. Noyau, boyau, tout ça, bien sûr. Mais les professeurs, dites-moi, Joyot, vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui. Voilà. Donc Sollers, c'était pour parce que ma famille avait barre sur l'usage que je faisais éventuellement de son nom. Les rapports entre un écrivain et sa famille sont toujours très intéressants à observer parce que ça ne va pas de soi du tout. En tout cas, pour moi, ça n'allait pas de soi. Donc Sollers, c'était un personnage imaginaire. J'ai tiré ça du dictionnaire latin et c'est Sollus avec deux L. Art, tout entier, art industrieux, risusé, etc. C'est la traduction latine du polytropos grec qui correspond à Ulysse, c'est-à-dire mon héros préféré, l'Odyssée. Je lisais ça avec des transports d'admiration pour ce personnage, protégé par une déesse, comme vous vous souvenez.
Déjà.
Oh, il faudrait reparler de tout ça, des dieux grecs, des déesses, j'adore ça. Athéna.
Oui, on va revenir à tout ça, et puis on parlera surtout de Stendhal. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation, comme Stendhal, de ne pas mettre de prénom? Jamais eu de s'appeler Sollers seulement?
Oui, le prénom, pourquoi pas. Sollers, oui, voilà. Et alors, pour la question du pseudo, c'est très intéressant à observer dans la littérature française. Il y a un nombre considérable de pseudonymes. C'est unique dans l'histoire de la littérature mondiale. D'abord, parce que la littérature française comporte une multitude d'écrivains contradictoires, comme aucun pays n'en a jamais produit, premièrement. Deuxièmement, à l'intérieur de ça, vous avez beaucoup de noms transformés. Moi, j'ai transformé un nom trop beau en un nom plus neutre et qui veut dire quelque chose, mais la plupart ont transformé des noms peu gracieux en pseudonyme. Exemple, Marguerite Donadieu. Donadieu quoi? Marguerite Duras.
Isidore Ducasse.
Oui. Yourcenar de Crayencourt, Yourcenar. Bon, mais plus ancien, alors, Poquelin, non, Molière, Arouet, non, Voltaire. Voilà, tout un, il y a Poirier. C'était effrayant de s'appeler Julien Poirier pour publier, non ? Donc Julien Gracq, c'est vachement mieux, etc. Et vraiment, c'est une particularité, je crois, hein, c'est, qui m'a toujours intrigué.
Et est-ce que alors, le fait d'être passé chez les jésuites a eu une influence quelconque ? Se faire virer chez les jésuites, comme ça, c'est comme un titre de noblesse ?
Certainement. Non seulement d'y être allé assez tardivement pour préparer les grandes écoles à Versailles, c'est l'école des postes qui désormais subit une dégradation considérable, puisque les filles y sont admises. Oh. Alors que de mon temps.
Un peu de provocation, préparez-vous quand même, préparez-vous.
Non, mais je plaisante. Mais non, ce n'est pas seulement d'y être allé, mais c'est d'en avoir été renvoyé.
Oui, oui, c'est ça la lettre de noblesse, en l'occurrence. Oui. Oui. Mais alors, mais comment on. Parce qu'il y a quand même dans une biographie, quand on la regarde, il y a des choses qui paraissent étranges, c'est Essec. On ne peut pas accoler ce nom-là.
Eh bien, non, parce que non, ma famille voulait que je prenne la suite d'une entreprise, d'industrie familiale. Etc. Mm. Donc, pour ça, il faut faire des études qui correspondent à cet avenir qui, heureusement, s'est effondré. Et en même temps qu'il faisait faillite, je publiais mon premier livre auquel il ne croyait pas du tout, qui a eu un certain succès. Comme quoi, il y a des... Eh bien, non, parce que là, c'était, on préparait HEC, oui. C'est une grande école. Et comme je foutais rien, que je séchais la plupart des cours, j'ai fait n'importe quoi. Et quand même, j'étais reçu au 100. Les 100 premiers étaient à l'HEC, puis les 100 prochains étaient à l'ESSEC. Ouais. Alors évidemment, j'allais voir de temps en temps, je faisais acte de présence, mais j'étais pas là. Ce qui fait que il m'envoie des rappels de cotisation.
Pour l'association.
Je n'ai jamais terminé mes études. Voilà.
Alors, il y a quelqu'un d'important. Bon, tu as parlé du premier livre paru, premier roman en 58, et qui, enfin, il y a déjà une certaine solitude, mais c'est Mauriac qui, quand on regarde ta biographie, on aime beaucoup l'idée qu'un jour tu as été reçu par Mauriac là-bas, ouais. Et que tu as fait cette fameuse promenade initiatique avec le maître.
C'est un truc étonnant, c'est la visite au grand écrivain. Voilà. Mauriac me racontait que lui-même était allé voir Barrès, par exemple. Voilà. Donc je suis allé le voir à Malaga, et Mauriac était quelqu'un de tout à fait passionnant. D'abord, j'admirais beaucoup plus que ses romans, encore qu'il faut revoir certains qui, s'ils avaient d'autres titres, vous prenez Thérèse d'Esquerou et vous l'appelez, à titre idiot, 19e, mais vous l'appelez Poison, c'est l'histoire de l'empoisonneuse, ça démarre très vite, ça va jusqu'au bout avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Mais pour moi, c'était le grand homme du bloc-notes. Et ouais, à l'époque, Mauriac était couvert d'injures, d'insultes, était obligé quand même de ne pas dormir toutes les nuits au même endroit, un peu comme Sartre, qui a été plastiqué.
Hein.
Voilà. Et il avait pour moi une ampleur géopolitique, si on peut dire, considérable. Parce que donc, c'est un des rares. Vous relisez le bloc-notes, c'était extraordinaire, hein, comme talent d'écrivain dans les journaux, le bloc-notes de l'Express.
Voilà. Est-ce que Philippe Soler s'y pense quand il écrit dans le JDD son journal du mois ?
Mais c'est certainement un inspirateur, oui. C'est les premiers conseils qu'il m'a donné, que tout ce que vous écrivez soit n'importe où. Bon, faites attention. Et donc, Mauriac disait, je m'emparerai de l'actualité et j'en ferai de la littérature. Mm-hmm. C'est ce qu'il a fait. Mm-hmm. En fait, c'est la littérature qui peut dire la vérité sur la vie politique ou les affaires, etc. Il y a l'information. Bien sûr, il faut s'informer. Mais le moment où vous trouvez les formules en moraliste, hein, ou les formules un peu choc pour dire quelque chose, là, vous faites un travail d'écrivain, ce qui est tout à fait différent. Les écrivains qui sont arrivés à faire du journalisme de façon brillante, toute proportion gardée, je fais ce que je peux, mais il y en a assez peu. Il y a Mauriac, sans aucun doute, Camus, c'est un combat pendant un temps.
Combat,
oui. Oui, bien sûr. Comme étranger, Hemingway. Hemingway était un très très grand journaliste aussi sur le terrain. Il faut que vous relisiez, le livre vient de reparaître avec des petits ajouts, c'est chez Gallimard, il faut que vous relisiez, si vous ne l'avez pas lu, Paris est une fête de Ernest Hemingway. C'est un livre magnifique.
Ah, tout le monde a compris qu'il va repartir avec une liste de lecture. Là. C'est bien. Oui, il n'y a pas d'autre.
On parle de ce qui est là.
Bien sûr, absolument. Et alors, tu dis aussi que cet adoubement de Mauriac t'a aidé au moment de créer Tel Quel. C'est-à-dire que c'est aussi la caution de Mauriac qui t'a aidé, ou peut-être même déterminé.
Il n'y a pas eu que Mauriac, il y a eu Aragon
bien
aussi.
Sûr.
Aragon, Grand Article, Dithyrambique, tous ces grands personnages me voyaient comme, pas leur successeur, mais une sorte de fils spirituel, c'est trop dire, mais enfin quelqu'un qui pouvait reprendre flambeau
d'une génération,
de leur jeunesse. Alors Aragon était quelqu'un de tout à fait impressionnant aussi à rencontrer.
Et ça se passait comment, lui ?
Eh bien, ça se passait de la façon suivante, c'est qu'il commençait à vous réciter ou à vous lire ses poèmes, et qu'il n'en finissait plus, et vous auriez pu aller prendre un pot au café du coin, ce serait même pas rendu, vous revenez, et il continue à lire dans son miroir. Voilà. Je m'en fais, avec une déclamation... Oui, comme ça. J'ai marché sur la treille immense de ta robe. Ça, c'est le ton de voix. Il faut faire attention aux voix. Le ton de voix des acteurs, des grands acteurs du 19e.
Tendance Sarah Bernard, quand même. Hein.
Voilà, par là. Ouais. Talma.
Il
y en a un autre. Par exemple, vous lisez Apollinaire, qui est un poète merveilleux. Il faut l'entendre lire. C'est tout à fait... La voix est complètement fausse. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Bon, là, les inventions dans la voix, il n'y en a qu'un qui est immédiatement. Alors, vous ouvrez l'oreille à autre chose. C'est Céline, bien sûr. Si vous avez les enregistrements de Céline, c'est merveilleux. Ouais. Ben voici dans un décor de chaises électriques et personne ne m'empêchera de parler. Et les voix, les enregistrements, pour moi, c'est très, très précieux. Voir comment les gens lisent à haut. Ouais,
c'est peut-être ce qui date le plus. C'est peut-être ce qui date le plus quand la voix, le
la ton, musique, la musique, musique, l'oreille. Oui.
Oui. D'ailleurs, on le dit et beaucoup l'ont dit que même dans le rythme de la phrase, ça s'est accéléré chez Solers. On verra ça, ce qu'il en est de cette écriture. Alors, bon, Tel Quel, il faut le resituer quand même. On est aussi à l'époque de la guerre d'Algérie. Il faut savoir que.
Alors là, cette fois-ci, c'est un autre personnage qui m'a sauvé la vie.
Oui.
C'est Malraux.
Malraux, oui. Parce que sinon, c'était le sage militaire.
J'avais décidé, beaucoup de mes amis... Oui, vous savez qu'on ne pouvait pas dire la guerre d'Algérie.
Les événements.
Daniel, on était obligé de dire les événements ou le maintien de l'ordre, figurez-vous. Et donc, beaucoup de mes amis ont été esquintés parce qu'il y avait quand même le contingent, 500 000 hommes, etc. Sans issue, comme la suite l'a prouvé. Et là... Beaucoup sont morts, ont été vraiment très très choqués. Hein. Pour ça, il faut lire un très beau livre de Pierre Guyotat, qui est mon quasi contemporain, et qui s'appelle Tombeau pour 500 000 soldats. Okay. Voilà.
Qu'il a lu un jour à avec Pivou.
Donc j'avais décidé de faire cette guerre à aucun prix. J'avais un dossier médical pas mal, mais à ce moment-là, on raflait tout le monde parce que. C'était le moment où la guerre faisait le plus de victimes. On rapatriait les blessés d'Algérie. Alors, je me suis retrouvé dans des hôpitaux militaires pendant 3 mois, où là, il a fallu faire un certain nombre de simulacres, c'est-à-dire ne plus parler, rester les yeux fixés au sol.
C'est quoi, schizophrénie ?
Ne pas répondre aux questions. Non, ce qui est embêtant, c'est que quand on fait ça, ça devient limite. Je suis tombé, j'ai raconté ça, sur un capitaine psychiatre, et là, plus c'est gros, plus ça marche, vous allez voir, qui m'a demandé de dessiner 2 personnages nus, un peu comme Adam et Ève. Alors, j'ai dessiné très soigneusement un homme et une femme avec les sexes bien distincts. Donc, sûr, Daniel, là, il n'y avait aucune erreur, sauf que je ne leur ai pas mis de bras. Alors, il m'a dit, il ne manque rien. Et j'ai dit non, j'ai gagné. Donc je suis réformé numéro 2, si tu veux tout savoir, pour terrain schizoïde aigu. Sans pension. Mais s'il n'y avait pas eu Malraux, j'y serais encore.
Mais alors, quel contact avec Malraux ? C'était simplement une intervention ponctuelle sur la base du...
Intervention ponctuelle, je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai remercié par une lettre, et il m'a répondu une petite carte, je l'ai là... de deuil. D'ailleurs, je ne sais plus qui était mort, ses enfants. Je sais pas. Et avec cette formule superbe, le grand style, entre ici, Jean Moulin. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir pu, une fois, rendre l'univers moins bête. Bon, Seigneur, ouais, alors, ouais, ça va, merci, ça, c'est trop.
On est parti.
C'est trop.
On est parti pour la vie.
Mais enfin, je dois la vie parce que j'étais arrivé à un point de...
Ouais, oui, quand même. Ouais. Alors, dans l'aventure de telle quelle, il y a plusieurs étapes. Il y a le structuralisme, c'est-à-dire, bon, il y a ce moment où le langage, quoi, l'interprétation, voilà. par le langage, il y a Barthes, il y a mythologie, et là, telle quelle, est en fer de lance.
Ça a été indubitablement la revue qui a été novatrice à l'époque, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de controverses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Daniel? Jusqu'entre 1960, la fin de la guerre d'Algérie, jusqu'en 1968, qui va être une autre époque, il y a eu une situation qui était très, très favorable. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, où tout est en régression. Très favorable. Donc, une époque, à vrai dire, de grandes nouveautés, de grandes interrogations. Et là, il y a eu des vedettes que j'ai eu la chance de connaître, Barthes d'abord, mais aussi bien Lacan, et aussi bien Foucault, et Deleuze, et Derrida, etc.
Le séminaire.
Alors, les séminaires, voilà. Le séminaire de Lacan. Le séminaire qui était vraiment extraordinaire. J'ai demandé 100 fois qu'on le filme, ce séminaire. Personne ne l'a fait, ce qui est très dommage, parce que c'est le plus beau théâtre que j'ai vu de ma vie. Ce type officiait tous les mardis vers 13h, pendant 1h30, et il improvisait, il donnait l'impression de penser en parlant, ce qui est quand même très... Les autres lisaient, vous comprenez, ils lisaient leurs textes universitaires. Lui, non. D'ailleurs, il a fini par se faire mettre à la porte, parce que l'école normale supérieure, à ce moment-là, était un lieu de fermentation révolutionnaire très intense. Ce qui fait que quand Lacan a été exclu par le directeur de l'époque, et on a été avec quelques amis occuper le bureau du directeur. J'ai encore du papier à lettres, je vous écrirai sur l'école normale supérieure. Et donc, c'était quand même les CRS, l'arme au pied, etc. On virait Lacan. Parce que, pourquoi? Parce que c'était un repère de gauchistes, de maoïstes, Miller, d'autres.
Ouais.
Voilà. Donc, à partir de 68, alors c'est
une autre époque. Parce qu'entre les deux, je vais me permettre...
Il faut éradiquer mai 68, comme a dit le président de la République actuelle.
Oui, absolument.
Ça fait froid. L'héritage. Éradiquer, c'est beaucoup.
Éradiquer l'héritage de 68, effectivement. Mais entre les deux, je vais me permettre de dire qu'il y a eu Kristeva, quand même. Il y a eu la rencontre. Hein, jeune femme qui vient pour...
Eh bien, cette jeune femme de 24 ans, venant de Bulgarie, échappant à l'empire totalitaire russe, vient à Paris. Elle avait obtenu une bourse pour venir à Paris grâce à la politique un peu de dégel de Gaulle. Mm-hmm. Elle arrive, elle est venue m'interviewer sur tout ça.
Sur le nouveau roman, surtout.
Oui, sur Blanchot. Surtout. Voilà. Et alors, il se trouve qu'on ne s'est plus quitté. Voilà. Et on est mariés depuis plus de 40 ans.
Vous êtes marié en 67, ça ?
En 67, ouais. Ça fait 44 ans.
Ouais, ouais. Bah, ouais, on ne voilà. compte plus. Hein.
Alors, j'ai dit un jour, je crois que c'est plausible. Elle vit sa vie, moi aussi. Enfin, elle est très, très connue dans tous les pays anglo-saxons. C'est une universitaire de très haut niveau, honoris causa, dans toutes les universités. Voilà. Bon. Mais je me suis demandé, je dis, au fond, quand quelque chose, comme ce qu'il faut bien appeler de l'amour quand même, dur, ce qui n'est pas évident, parce qu'à 40 ans, c'est pas mal, ça veut dire que deux enfants se sont rencontrés. C'est-à-dire que les enfants sont très différentes, mais qu'on poursuit une certaine obstination par rapport à sa propre enfance et à celle de l'autre. Or, c'est vrai, bordelais, je suis avec famille anglophile, donc me sentant absolument innocent des crimes de Vichy. On écoutait Radio Londres dans les étages pendant que les Allemands occupaient le bas des maisons et que dans les caves, il y avait des aviateurs britanniques qu'il fallait faire passer en Espagne. Bon. Donc, l'Allemand, période très troublée, on entendait Radio Londres. Procurez-vous le document qui vous recopie les messages de Radio Londres, Radio Libre, en 1940-1941. C'est tout à fait extraordinaire. J'écoutais ça comme j'avais 5-6 ans, 5 ans. C'était d'une poésie grandiose. C'était chaque fois des messages adressés, codés. Par exemple, j'aime sur fond de brouillage.
Oui.
Alors on allumait la radio. Les Français parlent aux Français. Déjà, formule étonnante. Voilà. J'aime les femmes en bleu. Je répète. J'aime les femmes en bleu. Ou alors, nous nous roulerons sur le gazon. Je répète. Nous nous roulerons sur le gazon, etc. etc., etc.
Les sanglots longs.
Le cardinal en a marre. Donc, ça voulait dire chaque fois, message codé, c'est-à-dire qu'il faut faire exploser un train, ou alors qu'on a été repéré, qu'il faut vite déménager. Donc, cette enfance-là, eh bien, pareil pour Julia Kreseva, parce qu'elle était complètement, avec son père surtout, réfractaire au régime communiste. Donc, être réfractaire de deux systèmes dominants, ça donne quelque chose comme une complicité profonde.
Mais justement, il y a quelque chose qui est dans le livre, on y reviendra, on va faire des allers-retours, et dont je ne sais pas si c'est de Philippe Solers ou justement de Kreseva, c'est que l'amour est toujours politique.
Oui, ben oui, c'est ce que je viens de dire. Il vient de, je crois que oui, c'est une forme de résistance aux politiques tout en étant un engagement politique. C'est-à-dire, encore une fois, être réfractaire à la pensée dominante, aux valeurs dominantes. J'espère que quelqu'un d'aujourd'hui, enfin plus jeune, sans lui monter une structuration réfractaire, soustraira peut-être au gavage d'image et au gavage de la communication et à l'oubli de la littérature.
Mais ce qui est dit dans le roman, c'est au-delà de la formule « l'amour est toujours politique », c'est que c'est une condition de l'amour entre deux êtres que de partager ce même aspect réfractaire.
C'est très flagrant dans le cas de Stendhal, justement. Il arrive après la retraite de Russie, etc. Il arrive en Italie, il connaît déjà l'Italie, mais il tombe éperdument amoureux, ça ne va pas marcher, ce qui d'ailleurs va être très intéressant, mais il tombe amoureux d'une femme très politique, belle, mais qui est liée au mouvement patriotique du Piémont, c'est-à-dire à ce qu'on appelait les carbonari. Donc lui-même est suspect, elle est surveillée par la police autrichienne, et ça crée quelque chose d'immédiat. Sauf qu'il n'a pas il n'obtient pas le physique de la personne. Mais c'est important.
Ça va être tout le roman.
C'est pour ça que j'ai écrit Trésor d'amour pour dire qu'avec la descendante de ça, moi, au contraire, j'arrive à des fins un peu plus enveloppantes.
Oui, parce que Philippe Solers possède le suffrage à vue, on expliquera tout ça, Casanova.
C'est la merveilleuse expression de Casanova. Absolument. Vers l'âge, après 50 ans, il dit, là j'ai commencé à perdre le suffrage à vue.
Voilà, c'est ce qui fait que les choses se passent ou ne se passent pas bien. Alors on était aux alentours de 1966 avec Julia Kreseva, 68, parce que ça a été évoqué, forcément un moment important, d'engagement. Alors, comment Philippe Solers vit mai 68 quoi.
Alors, chacun l'a vécu à sa façon. Ce qui est sûr, c'est que c'est un événement extraordinairement important. Pas seulement comme ça, comme blabla, de langue de bois ou de slogan. C'est à partir de là qu'on peut dire qu'il y a eu une révolution. Dans les mœurs, très importante. Dans la communication, très importante, etc. etc. Donc, prenez avant et regardez après, c'est prodigieux, de ça, pour les femmes, pour les homosexuels, pour la télévision, pour la radio, pour tout ça. Le monde change complètement. C'est un monde qui ne pouvait pas durer, tout simplement. Et là, le plus grand adversaire de l'époque, qui tenait bon quand même, avec une forte puissance, ça c'est le petit pâtissier Jacques Duclos, Parti communiste français qui fait 22-23% aux élections présidentielles. C'est exactement comme c'est curieux le score que risque de faire Marine Le Pen aujourd'hui, comme s'il y avait transfusion. Ce qui s'est déjà passé dans l'histoire, notamment en Allemagne.
Donc, Duclos, c'est l'homme des blancs bonnets et bonnets blancs.
Ouais. Ouais. Et donc, voilà, l'adversaire était ça. Alors là, il y avait plusieurs moyens. C'était le plus efficace, pour l'époque, on a fait ça rapidement et bien, c'était de s'appuyer sur le mal pour détruire un mal. Mmh. Un mal contre l'autre. Donc ça, c'est l'épisode chinois. Mmh.
Ah bon, l'épisode chinois dont Philippe Sauer n'est toujours pas lavé. Il a l'impression qu'on le poursuit, qu'il n'y aura jamais une amnistie dans ce domaine-là.
Jamais, non. Je dormirai avec un drapeau chinois sur mon cercueil. je mettrai ça à moitié avec le... Il y aura deux drapeaux, un drapeau chinois et le drapeau du Saint-Siège.
Oui,
auquel je tiens beaucoup.
Celui sous la flotte, pour ce moment.
Qui d'ailleurs est très beau, jaune et blanc.
Voilà, c'est celui qui
flotte. Alors il y a deux choses, vous voyez, solaire, de Mao ou pas. Alors là, c'est la fin de tout.
Oui, non, mais parce qu'il y a...
Plus surréaliste, tu veux.
Oui, bon, c'est ça, on va pas trop bousculer la chronologie, mais c'est vrai que c'est
Jean-Paul II, Jean-Paul II, 78, je suis à New York.
Ses premiers voyages, à peu près, enfin, c'est le 76, 78, les premiers voyages.
Début des années 70, après la Chine, on va aux États-Unis. Bon. Donc, je téléphone à Paris et Julien me dit, oh, tu sais, il vient de se passer une chose très curieuse, c'est qu'il vient d'y avoir l'élection d'un pape polonais. Ah, bon, je suis un peu rapide, comme ça, j'anticipe. C'était la première fois qu'il y avait un pape non italien depuis 455 ans. Mmh. Bon, la suite, vous la connaissez, l'insurrection, la Pologne. Mmh. Je me retourne vers le chairman qui était là. Je dis, oh, tiens, il y a une information qui vient de tomber. C'est un pape, un petit peu en conclave. C'est très amusant parce que vous avez aujourd'hui un Bémus Papam avec Piccoli,
oui, 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 qui va
totalement,
avoir un prix
totalement décalé par rapport à une chose importante. Mmh. Voilà, je lui dis, il y a un Polonais, le chairman honorable correspondant de la CIA, bien sûr. Et j'ai dit, oh, c'est curieux parce qu'il y a un pape qui est polonais. Et il me regarde et il me dit, so what?
So what? C'est un peu le pape combien de divisions, quoi. Un peu,
et oui, alors bon, le pauvre Jean-Paul II, deux balles dans le ventre, etc. Oui. Béatification, la religieuse. Je ne sais pas si vous avez vu ces images.
Non, il faut raconter.
Extraordinaire. Donc, maladie de Parkinson, une religieuse prise, tout son couvent prie avec elle, et alors qu'elle était complètement paralysée, un matin, elle se lève, elle écrit, elle marche, voilà. Bon,
le miracle.
Enquête médicale, bon, alors, enregistrée comme miracle. Bon, pourquoi pas? Là, elle était là pour la béatification. Alors, le bienheureux, vous regarde. Alors, elle était là, elle était obligée de porter sur 200 mètres, ce sont des images éblouissantes. Souvent, à la télévision, il y a des choses, hein. Elle était là, elle portait un reliquaire, comment ça s'appelle, transparent, en cristal, avec une ampoule de sang. Une ampoule de sang de Jean-Paul II, qu'on lui avait chouramé à la clinique, après qu'il l'ait opéré, c'est deux balles dans le vent. Donc, elle avait à faire un 200 mètres. Et donc, imaginez ce que ça aurait été si elle avait été reprise brusquement par la maladie de Parkinson. Et ou bien si elle avait laissé tomber, tout était foutu. Voilà. Eh oui. Cela dit, alors de façon surréaliste, vous pouvez aussi isoler ce plan et le monter dans un autre contexte, par exemple un film de vampire.
Ce qui était très à la mode.
Donc tout ça est intéressant parce que c'est intéressant quand tous les détails comptent. Voilà. Pour le roman, comme la femme de chambre en ce moment.
Je me demandais quand est-ce qu'elle allait arriver. Elle arrive en même temps que le pape, donc
elle arrive au bon moment, exactement, parce que il faut absolument savoir qui c'est.
Bah oui. Voilà. Bon, entre cette robe de chambre et le pape, on va revenir le pape. Restons avec le pape parce que vous avez rencontré le pape. Vous avez rencontré le pape et vous racontez. Vous lui apportez la Divine Comédie. Enfin, vous avez travaillé. Oui. Et vous racontez ce moment où il pose la main sur votre épaule.
Oui, comme ça. C'est dans la position de l'adoubement, comme on dit, un titre militaire, je suppose. J'ai écrit un livre sur la Divine Comédie. Dante me passionne depuis très longtemps. J'ai écrit un gros livre sur la Divine Comédie. À qui offrir un livre sur la Divine Comédie, sinon à un pape, puisqu'en plus, Dante est très, très sévère avec les papes de son époque. Il en met un certain nombre en enfer. C'est Benoît XV qui est un pape intéressant. Benoît XV, celui-là est XVI, mais alors il a pris la suite de XV. Benoît XV est un pape très intéressant qui est mort de chagrin en 1921. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était pacifiste. C'est plutôt le rôle des papes. Voilà. Mm-hmm. Et il a prévenu, c'est un type très bien, qui a célébré le 600e anniversaire de la mort de Dante. En disant, si vous continuez, au lieu de vous égorger comme ça, vous feriez mieux de lire Dante. C'est frappant. C'est comme Joyce disant, au lieu de faire la guerre, vous feriez mieux de lire Finnegan's Wake. Oui, voilà, ça, personne n'écoute. Mais surtout, comme il était pacifiste, il s'est fait injurier à mort, à la fois par les Français, il a été traité de pape Bosch, et par les Allemands, qui le traitaient de traître. Donc c'est intéressant, parce que ce qu'il a dit, c'est, au fond, c'est si vous continuez comme ça. Regardez les images de la guerre de 1914-18. Ça a l'air de se passer sur une autre planète. Ces boyaux, ces tranchées, les corps humains qui courent comme des rats. La boue, le sang effrayant. Et alors ce brave Benoît XV a dit, si vous continuez comme ça, vous allez produire une catastrophe en Europe. 12 ans après, c'est Hitler.
Alors, par rapport aussi à ce pape, cette main posée, c'est le rapport de Solers au catholicisme. Parce que il fait bien la distinction entre chrétiens et catholiques.
Ah, les chrétiens, il y en a de toutes sortes. Les catholiques, en principe, sauf les catholiques français qui ne sont pas vraiment catholiques, en principe, ils sont tenus d'être dans une certaine structure.
Oui.
Bon, écoutez, cette photo, j'ai offert ce livre à ce pape. Tout le monde a vu le geste qu'il fait sur mon épaule. Personne n'a vu que ma main lui offre un livre. Personne n'a vu le livre. C'est beau, non?
Oui.
Et donc, j'ai été en quelque sorte béni par un bienheureux. Et dans quelque temps, indubitablement, j'aurais été béni par un saint.
Oui.
Ce qui fait que je suis très tranquille sur l'au-delà.
Côté assurance.
J'ai pris mes assurances.
Oui, mais justement, parce que vous dites que vous êtes un providentialiste, c'est-à-dire que quand même on utilise Dieu, pas quand ça m'arrange, mais un peu quand même, avec quelques intermittences et furtivités.
Il n'y a pas plus belle formule, je crois, que celle de Casanova, qui dit j'ai vécu en philosophe et je meurs dans ma religion catholique. C'est bien, c'est mieux que le contraire. Voilà. Donc, c'est la formule suivante. C'est le sequere deum, suivre le Dieu. Alors, quand les gens parlent de Dieu, il faut savoir à quoi. Alors, bon, il faut tout. Est-ce que vous êtes croyant? Alors, dites-moi ce que c'est pour vous, de croire à quoi, etc. On verra si on est d'accord. Tout le monde se débarrasse constamment de la question, parce qu'on ne sait pas avec qui on parle, qui met quoi dans ce genre de vocabulaire. Je trouve que oui. Catholique, pourquoi? Parce que je crois d'abord que c'est la religion qui produit le plus de fantasmes. Ça n'arrête pas.
Hein. Surtout en Italie. Hein, oui.
Ah non, mais de fantasmes érotiques.
Oui, bien sûr, j'entends bien.
Et ça a donné évidemment ce que vous voyez quand vous allez en Italie, c'est-à-dire au paradis, c'est-à-dire cette extraordinaire efflorescence artistique, peinture, sculpture, musique, Venise. C'est-à-dire, on m'invite beaucoup, un peu partout, je vais à l'aéroport, et puis au dernier moment, comme c'est curieux, je prends un avion pour l'Italie. Je ne peux pas. Ailleurs, je m'ennuie beaucoup.
C'est le seul endroit où vous entrez dans les églises pour prier.
La prière vient d'elle-même, c'est-à-dire c'est tellement... en France, non. Bon, j'ai amené mon fils, quand même, parce qu'on lui donnait des rudiments, des
éducations.
Oui, David. Je l'ai fait baptiser et je l'ai emmené dans les églises de Paris pour qu'il choisisse, etc. Évidemment, ce qu'il a préféré, c'est Notre-Dame de Paris avec sa forêt de cierges allumés, etc. C'est très beau. Et puis s'il y a de la musique, c'est encore mieux. Mais enfin, c'est un peu gothique. Il n'y a pas eu la révolution baroque en France. Le Bernin n'a pas réussi à vendre son projet du Louvre. Il a fallu que ce soit un Chinois, paye magnifique, qui vous aménage quand même cette cour du Louvre. Donc, c'est l'église gallicane, l'église française, est protestante sans oser le dire. Voilà. Donc, elle n'est pas vraiment catholique. Et c'est, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dynamique interne du corps qui se met dans cette dimension. Alors, c'est-à-dire le traitement des cinq sens à la fois, Donc musique, peinture, littérature, etc. Musique. Écoutez, il y a encore 10 ou 15 ans, personne ne connaissait la musique vocale de Vivaldi. Et est arrivée une femme de génie, qui est une amie, qui s'appelle Cecilia Bartoli.
Tu vous aimais beaucoup et dont vous parlez.
Ben, elle est magnifique. Elle est italienne, donc aucune chanteuse ne peut prononcer le R comme il faut. Naufraga. Bon, quand elles sont anglo-saxonnes, elles n'ont pas le R roulé qui convient. Elle a réinventé toute la musique vocale de Vivaldi de façon sublime.
Qui était prêtre.
Voilà. Et ça a eu beaucoup de succès. Il y a 1 million d'exemplaires. Personne ne savait. À Venise, je viens de recevoir ces nouvelles. Il n'existait pas de centre de musique baroque. Ça a lieu maintenant. C'est la première fois qu'il va y avoir avec des mécènes du monde entier, des jeunes musiciens qui vont venir pour jouer cette musique qui n'est pas jouée en Italie, qui n'est pas jouée à la Fenice, par exemple. Ils n'ont pas les instruments. Et deuxième chose, évidemment, j'y suis un peu pour quelque chose, c'est ma camarade Bartoli qui m'exfiltre vers ça. Et donc, c'est la première fois aussi que vous aurez une fondation Casanova. Bon, ça fait des années et des années que je réclame, qu'on fouille là où je suis allé en Bohème. Pour retrouver Casanova, elle est bien existée. J'ai trouvé l'église désaffectée où il y a une inscription que j'ai photographiée aux alentours de Duškov, comme on appelle ça aujourd'hui, en Tchéquie. Enfin, bon, ouais. Et il faut fouiller. Il y a probablement peut-être un radius, un cubitus, un désossement. Et je réclame sans succès depuis des années et des années qu'on rapatrie les os de Casanova Giacomo sur la place Saint-Marc à Venise pour célébrer son évasion des plombs. Vous savez, il était en prison, il est passé par les toits. Et que, devant toutes les plus hautes autorités, civiles, religieuses, militaires, etc., vous voyez la fête, ça serait splendide. Au lieu de ça, pour le carnaval, vous avez pour la mode, vous avez des trucs absolument dégueulasses, de petites statues de Casanova en train de faire des... on voit à quel point Fellini a été un criminel. C'est le ressentiment complet. Voilà. Je parle dans le vide.
Oui, non, parce que quand même, écrire depuis 40 ans sur Venise a peut-être une influence sur la création de ce festival ou les choses de genre, quand même, tout de même.
Prégamo, ça c'est la providence. Oui. Vous m'interrogez là-dessus. Vous savez quel est l'écrivain français qui se déclare providentialiste sans arrêt? C'est très amusant. Ah, je suis providentialiste, elle dit ça dans toutes ses lettres. C'est Madame de Sévigné. C'est une consoeur.
Alors, juste pour rester une dernière fois sur le pape, vous êtes quand même avec Benoît XVI, vous lisez ses encycliques, vous avez l'impression qu'il est un peu influencé par Solaire. Ça,
je dois à la vérité de vous dire que j'envoie toujours avec respect mes livres au Saint-Siège et qu'en général, via l'annonciature apostolique, je reçois dans les 15 jours, alors que c'est vraiment une grande entreprise, vous savez, multinationale, des lettres avec des remarques que je ne partage pas forcément, mais avec des bénédictions chaque fois. Jean-Paul II, c'était plutôt la Vierge Marie. Benoît XVI est plus discret. Peu importe. Mais enfin, par exemple, il m'a remercié d'un livre sur Mozart. Vous savez que ce pape-là, a fait monter son piano dans ses appartements, et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est un assez bon pianiste, et il peut vous jouer, son frère est musicien aussi, il peut vous jouer, mais très très correctement, comme ça, il fait ça tous les jours, une sonate de Mozart. C'est son musicien préféré. Un pape qui est vraiment capable de jouer une sonate de Mozart ne peut pas être vraiment diabolique. Enfin, ou alors il l'est bien comme il faut.
Ça donne envie de voir Abemus Papam là, de Moretti pour voir comment il traite.
Mais le pauvre Piccoli, comment voulez-vous qu'il entre dans ses complexités? En plus, c'est de la psychologie, c'est de la psychanalyse. Bon marché, j'irai voir le film si vous voulez. Moretti, bon, pourquoi pas, mais il fait ça au moment le plus décalé, c'est-à-dire au moment où c'est plus du tout de ça qu'il s'agit. Après Jean-Paul II, Benoît XVI. Benoît XVI a fait des discours, en effet, des homélies, ça s'appelle. Où chaque fois, bizarrement, j'ai regardé ça au moins 15, 20 fois, il reparle du chant 33 du paradis de Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio, da termine fisso d'eterno consiglio. Bon, alors je traduis. Vierge mère, fille de ton fils, terme fixe d'un éternel dessein, d'un éternel conseil. Voulez-vous, cher Daniel, réfléchir un peu à ce que c'est qu'une mère qui serait la fille de son fils? Eh, c'est pas facile.
Non, même
demandez à un homme s'il y arrive.
Non, mais même si on va y venir, parce que c'est quand même aussi un des thèmes stendhaliens, à savoir, et également que vous reprenez, à savoir que tout amour est incestueux et fait référence à la mère. Donc,
bien sûr.
Donc, on reviendra à ça parce que c'est un thème important. On va peut-être déjà, on va faire une transition.
Plus incestuosité que le catholicisme, il n'y a pas. Et c'est pour ça que c'est créateur de... Bon, Stendhal, il est absolument habité par la question. Oui. Sa mère est morte à l'âge de 7 ans. Mm-hmm. Mais ce qu'il raconte, c'est un des écrivains les plus francs sur cette question. Les désirs qu'il éprouvait jusqu'à l'âge de 7 ans pour sa mère. Mm-hmm. Et donc, il y a des passages absolument magnifiques.
Voilà, et aussi sur ce que vous disiez.
C'est une lectrice de Dante, d'ailleurs.
Oui. Alors, venons à ce trésor d'amour, dont dès le début, tout de suite, on met en garde sur le titre. Alors, un titre qui pourrait paraître.
J'explique que c'est le nom d'une boutique très ancienne qui a disparu maintenant. Tesoro d'Amore, qui était dans le vieux quartier de Venise. Et voilà. D'autre part, c'est un clin d'œil au livre de Stendhal que j'ai relu à ce moment-là.
De l'amour.
De l'amour, tout simplement.
Alors, ce livre n'est pas un roman, c'est un plus que roman. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un roman et qu'est-ce que c'est qu'un plus que roman? Parce que Stendhal, lui, parlait, quand il parlait du roman, il parlait de ce miroir qu'on promenait le long du chemin.
Oui, il a dit ça, mais ces livres ne sont pas du tout ça. Absolument. Donc un livre, un roman, en général, ce que les gens attendent, quand ils lisent vraiment, peu importe, mais ils veulent voir un film. Il faut qu'il y ait de story, comme disent les anglo-saxons. Le roman à l'américaine, à l'anglo-saxon, c'est fait pour voir un film, qu'on oublie plus ou moins. Moi, je prétends qu'un plus que roman, c'est pas ça du tout. C'est, bien sûr, il y a des éléments visuels forts, mais il le faut, mais c'est fait pour être en temps. Et le roman doit aller vers une concentration, une poésie. Quand vous lisez Proust, vous savez que la poésie est là. Quand vous lisez Céline, comment ne pas entendre qu'il parle à partir de ce qu'il écoute comme musique, comme sa musique à lui. Oui. Je crois que c'est la concision, c'est la langue française se prête à ça. Plus d'ailleurs aux mémoires qu'au roman. La recherche du temps perdu, c'est magnifique, c'est romanesque tant que vous voulez, mais c'est au fond une gigantesque mémoire en action. Le cardinal de Ré, Saint-Simon, c'est la mémoire, c'est des mémoires historiques. Le français est intéressant de ce point de vue. Et quant à Stendhal, ça commence comme si, puis ça bifurque immédiatement. La Chartreuse de Parme, par exemple.
Alors, on va en parler parce que justement, Stendhal, ce livre est tissé d'une histoire d'amour, celle du narrateur qui ressemble énormément à Philippe Solers et du Nina, on en parlera, de Stendhal, d'analyses, d'un certain nombre d'analyses, de beaucoup de citations de Stendhal et de rapports à Venise qu'ont pu avoir aussi d'autres écrivains. Alors, ce livre commence par une citation, je vais vous la lire, un proverbe vénitien, mais attention. « Douleur d'amour ne dure qu'un moment, trésor d'amour dure plus que la vie. » Et c'est faux, ça.
C'est moi qui l'ai inventé.
Voilà, absolument. Mais c'est bien marqué, vous verrez. Proverbe vénitien, 16e siècle. J'aime beaucoup ça.
Stendhal est coutumier de ce genre de plaisanterie, c'est-à-dire qu'il met ça dans La Chartreuse d'Oyer. Il invente de fausses citations de Danton. Voilà. Mais ça fait partie du jeu.
Oui.
C'est alors, tout simplement pour renverser la formule.
Bien sûr. Plaisir d'amour.
Ne dure qu'un moment. Voilà.
Alors, ce livre.
C'est-à-dire la rengaine romantique, masochiste.
Alors, ce livre est aussi, comme souvent avec vous, c'est le livre qui s'écrit et pas forcément le livre qu'on lit. C'est-à-dire qu'on est parti et vous partez pour un autre livre, pour Delta, pour un livre tout à fait différent. Et il y a un moment, le livre s'impose, l'autre, l'histoire, la vraie, celle que vous allez raconter. Est-ce que c'est ça?
L'autre exergue que j'aime bien, parce que ça permet de voir comment Stendhal se corrige en écrivant.
Voilà.
Alors, l'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, virgule, ou plutôt la seule. L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule, dit-il en réfléchissant à ce qu'il vient d'écrire.
Plutôt.
La plus grande des affaires, ça voudrait dire qu'il y en a eu d'autres, mm-hmm. et que c'était la plus grande. Mais la seule, ça veut dire qu'il n'y a que celle-là. Voilà. C'est tout. C'est concis. Et c'est quelqu'un qui sait faire des aphorismes, qui sait faire des maximes. Qui, à mon avis, elle a beaucoup, beaucoup de chance de taper dans le mille. Par exemple, Nietzsche, au fond, aurait voulu être français. C'est les aphorismes, c'est les moralistes français du XVIIe. La Rochefoucauld, les grands, voilà, Mouvenard, Voltaire, ensuite. Le français a une capacité de concision, de rassemblement, dont les Français ne sont plus du tout conscients, à mon avis. Ils ne se veulent plus. Mmh. Ou alors, ce sera sous la forme de Marine Le Pen, ce que je ne souhaite, vous vous en doutez, nullement.
Ou ils ne se valent plus, peut-être.
Alors, ils ne se veulent plus.
Ouais. Alors, ce livre, je disais, commence par un livre, c'est pour savoir comment un peu les choses se font, la nécessité de partir vers un projet, de l'abandonner, ou au contraire, que ce projet ramène à celui qui va être abouti, c'est-à-dire à Trésor d'amour.
Oui, parce que le livre en question, c'était, ça devait s'appeler Delta, puis alors ça devait partir d'une étude des fleuves, la façon dont les fleuves vont forcément vers un delta. Il y a des deltas très impressionnants sur la planète, hein. Un peu partout. Et puis, là, il y a quelque chose qui se passe, et ce delta, en fait, va devenir une histoire d'amour. C'est-à-dire avec cette jeune femme, qui est la descendante
du
grand amour de Stendhal. Elle ne lui attache pas beaucoup d'importance.
Non.
Mais alors, ça permet aussi d'analyser ce qui a pu se passer en un siècle et demi dans le continent féminin, ce qui est à mon avis, le repérage est très important, parce que s'il y a eu des glissements extraordinaires de terrain...
Où c'est Philippe Solaire, c'est cette analyse qui dit les choses très très clairement, parce que ce livre est tissé d'analyses de ce type-là, avec des portraits d'Américaines, on va revenir au fur et à mesure de ça.
Ouais. Enfin. En trois siècles, on est donc passé du refoulement et de la sublimation religieuse au libertinage. Du libertinage à la passion romantique, de là à la pudibonderie, de là encore à la prolifération sexuelle et pornographique, avant de retourner, via la maladie et la technique de reproduction, au refoulement ordinaire et originaire, qui revient chaque fois au point mort. La boucle est bouclée, le spectacle est achevé, il est temps d'en tirer les conséquences. Donc, je crois que c'est l'état actuel des choses. Mmh. Là, je parle sur fond d'autres livres, dont celui qui a eu le plus d'impact est Femme, quand même.
Oui.
Je suis un enquêteur très sérieux, je vais sur le motif, sur le terrain.
Vous parlez des femmes, là, en ce moment.
Je prends des notes.
Des notes, oui, oui. Beaucoup de notes. Il y a aussi un rapport à l'époque, parce que tout ça, ce qui est mis en perspective, c'est cette espèce de façon qu'à l'époque de devenir vulgaire, d'être saisi par le fric. Alors que là, on a affaire presque à un amour modeste. C'est-à-dire que l'amour de Mina et s'insinue dans des endroits secrets de Venise, se fait son propre petit paradis.
Et oui. Vous savez ce qui fait le plus peur dans l'amour, l'amour vrai, pour autant qu'il soit vrai, c'est que c'est gratuit. Et c'est pour ça que c'est très, très, très rare et très mal supporté par la société. Ça ne peut pas être gratuit. Or, l'amour est gratuit. Et donc très rare. Par conséquent, les gens à qui ça arrive doivent s'organiser pour vivre comme des clandestins dans la société où nous vivons. Et c'est pour ça que le meilleur endroit, d'ailleurs, pour être clandestin, c'est un endroit qui est super exposé Alors, Venise. Bon. Les touristes, les cars qui arrivent, les Américains, les Japonais qui photographient les tableaux au lieu de les voir, vous voyez, tout ça.
Impensif, quoi.
Oui, on sait bien. Venise est une ville très piège. Et vous déplacez de 150 mètres et vous êtes tout à fait ailleurs. Il n'y a personne. Vous vivez dans un paradis qui est fiché en plein enfer de tourbillons touristiques. Ça, c'est intéressant, techniquement. Deuxièmement, c'est une ville que j'ai vue depuis 40 ans, montée en puissance maritime, ce que personne ne semble, semble percevoir. J'ai passé ma vie à voir les paquebots augmenter en volume, leur provenance venir de tous les coins du monde, entre un bateau chinois qui rentre à Venise en 1969, comme le cuirassé Potemkin, drapeau rouge à Toulon, avec des haut-parleurs, des Chinois qui appelaient le peuple vénitien, ce qui est quand même invraisemblable, à la révolution immédiate. Le bureau du Parti communiste italien était sur les quais. Ils sont passés devant en les insultant, en les traitant de révisionnistes, etc. Bon, eh bien, vous voyez, 40 ans, 30 ans, un paquebot énorme qui vient de Shanghai, vous comprenez ? C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans Venise. C'est une ville puissamment maritime qui retrouve justement son destin étouffé au XIXe siècle. C'était quand même une ville de marins extraordinaires. On songeait aux marins qui revenaient du monde entier, qui rentraient et qui voyaient la douane de mer. Et maintenant, je suis persuadé qu'ils ne s'arrêteraient pas pour visiter les cochonneries que M. Pinault a entassées.
Il y en a sur M. Pinault.
Mais c'est effrayant. Oui. C'est effrayant. Moi. Donc, quand vous disiez la vulgarité, oui, je crois que ça, c'est une formule de Nietzsche terrible. Il annonce qu'il y aura plèbe en haut et plèbe en bas. Donc, si vous voulez, cette histoire de lutte des classes, de hiérarchie sociale, ça, c'est terminé. Il y aura éventuellement une noblesse, mais qui ne pourra être qu'une noblesse d'esprit. Parce que l'ancienne aristocratie est tombée dans le people, dans le n'importe quoi, dans les mariages princiers, si vous voulez. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce qui aura éventuellement d'intérêt, c'est en cours, c'est ce qu'on doit appeler une noblesse d'esprit. Sans aucun privilège, elle est offerte à tous. Il s'agit simplement d'avoir de l'esprit, si on peut.
Alors, on a parlé du plus que roman, et il y a aussi une phrase, une citation, une réflexion. C'est vrai que, bon, en gros, c'est intéressant, le roman, mais ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est de se regarder écrire un roman. Et se regarder écrire un roman. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre l'idée que c'est encore plus important que le roman lui-même.
Oui, je crois. Oui. Le roman comme fabrication de quelque chose qui doit déboucher, encore une fois, sur du cinéma. Qui est film ou pas film, le projet est ça. C'est-à-dire, est écrit pour un public et doit être porté à la représentation cinématographique. Bon, pourquoi ? C'est 98% du marché. En revanche, s'écouter écrire, c'est pas se regarder écrire, c'est pas s'écouter écrire. C'est rentrer dans ce corps bizarre qui trouve des choses. En écrivant, c'est pour ça que l'ordinateur est à déconseiller. Il faut pas avoir de
papier. Cahier Clairefontaine.
Oui, cahier Clairefontaine. Voilà. Puis stylo. Puis après, on voit la machine à écrire. Mais ce qui est très très curieux dans le cas de Stendhal, pour que j'y reviens de nouveau, c'est qu'il note. Voilà. Bah, tout à coup, il se rend compte qu'il a écrit pendant 6 heures. Le temps est devenu quelque chose d'autre. Alors, il est surpris. Et puis, il note ça très attentivement dans son journal.
Il note les dates quand il commence.
Les dates, là. Donc, le temps change de nature. C'est comme dans l'amour, où si vous avez la chance d'avoir un peu cette effervescence, vous vous rendez compte que le temps change. Un rendez-vous vraiment amoureux met le temps dans un autre état. L'espace aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que ça se passe de façon discrète, parce que vous faites de la magie, en somme. C'est de la magie. le temps n'est pas le même. Alors, le temps est surveillé par tout le monde, par soi-même, d'ailleurs, on se surveille, en train de surveiller son temps. Mais, encore une fois, si c'est gratuit, eh ben c'est le contraire de time is money. Ça veut dire que c'est gratuit. Donc, vous avez l'énorme masse de temps qui peuvent ne durer que trois quarts d'heure.
Mmh. Oui. Oui, d'ailleurs, vous en parlez, vous dites, voilà, les amoureux, c'est...
Ou même 20 minutes, voilà. C'est de cela qu'on ne se rend pas compte. Le pauvre Strauss-Kahn qui saute sur une femme de chambre pour que ce soit vite fini.
Oui.
C'est absurde. Voilà quelqu'un qu'il faut faire lire Stendhal. Ça devrait être...
On va lui donner envie de lire Stendhal. Donc là, la formule que vous avez utilisée, c'est le roman, c'est bien, mais l'observation de soi en train d'écrire... c'est mieux, et je me demandais si c'était pas une phrase qui pouvait être transposée à l'amour. L'amour, c'est bien, mais l'observation de soi en train d'écrire l'amour, c'est mieux.
Je crois, c'est un peu comme la peinture. Les très très bons peintres sentent ça au bout du pinceau, comme un écrivain sent les mots au bout du pinceau. Si vous allez voir Manet, par exemple...
Vous allez écrire bientôt. Enfin, vous
ouais,
allez.
Oui, oui, oui. C'est absolument génial, oui. Génial, l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe, c'est vraiment un très grand génie. Et vous êtes frappé par le fait que chez les autres peintres, il n'y a pas cette intensité du regard. Quand vous êtes devant un Manet, vous avez quelqu'un. Et ça, c'est très difficile à faire. Faire sortir quelqu'un de la page, quand on écrit, ou quand on peint. Victorine Meurent, l'actrice qui joue l'Olympia dans le déjeuner sur l'herbe ne s'est certainement pas doutée de la façon dont Manet l'inventait. La voyait donc. Il voyait quelque chose qu'elle ne savait pas d'elle-même. Ça, c'est fort. Berthe Morisot, même topo, ahurissant. C'est donc des romans. Les tableaux de Manet sont des romans. Les tableaux de Picasso sont des romans. Si vous prenez les femmes existantes dans Picasso, c'est pour ça qu'il faut souvent passer par les femmes pour savoir si quelqu'un sait faire ou pas. Picasso, je ne vous dis pas, depuis Dorama, Marie-Thérèse, là, ce sont des histoires de femmes. Vu par quelqu'un qui en sait davantage sur elles qu'elles-mêmes. C'est assez rare.
D'ailleurs, vous en voulez un peu à Houellebecq, que vous aimez bien, pour ses paroles sur Picasso. Il était un petit peu...
Ah oui, c'est très con, ça.
Oui.
C'est très, très con, parce que justement, il décline des peintres. Kandinsky, je ne sais plus, Mondrian, etc.
Pollock, je crois.
Pollock, même Chagall. Oui, on Chagall. Ne voit pas tout ça, on peut aimer ça, je ne dis pas. Mais essayez de montrez-moi une femme chez les peintres que nous venons de citer. Il n'y en a pas. Mm-hmm. Chez Braque, par exemple, qui a été l'aide de camp de Picasso quand il y a eu l'expédition cubiste. Braque a toujours été incapable de faire un nu ou une femme. Il a fait des oiseaux qui sont très lourds, voyez-vous. Donc, il n'y a pas non plus Chagall. C'est tout à fait. C'est très bien, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'arriver à quelque chose d'intense dans le regard qui vous regarde depuis le tableau. Qui vous regarde dans le tableau. Regardez donc Victorine Meurent ou Berthe Morisot, vous regardez. Vous verrez, c'est...
Alors, quelque chose de très important, c'est le regard de Stendhal. On pourrait se dire, mais pourquoi Stendhal est-il aussi important et aussi important aujourd'hui, et pas seulement pour l'amour-passion ?
Parce que c'est un esprit libre. Et donc, l'esprit libre doit être, à mon avis, réaffirmé. C'est ce que j'ai fait avec le livre précédent, c'était Une vie divine, il s'agissait de Nietzsche, et Nietzsche raconte très bien qu'il est, oh là là, vers la fin de sa vie, il découvre quelqu'un de merveilleux, c'est Stendhal. Et comme il en parle aux gens qu'il rencontre, en Allemagne donc, et tout le monde lui demande d'épeler le nom. Personne ne sait qui c'est. Il n'y aurait pas eu, au moment de la Chartreuse de Parme, livre magique, s'il en...
50 jours quand même, hein, pour l'écrire.
Il n'y aurait pas eu l'article de Balzac, preuve de générosité extraordinaire. Il n'y a eu qu'un article la revue parisienne, long article de Balzac, Monsieur Bell, a écrit un livre sublime. Bon, vous savez, un article de Balzac, ça me suffirait amplement.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe chez Stendhal? C'est qu'on pourrait presque se dire que si cet homme avait été heureux en amour avec sa passion, si je puis dire, c'est-à-dire que s'il avait abouti, s'il avait consommé, si je puis dire, il n'aurait pas écrit Privilège, il n'aurait peut-être pas écrit De l'amour, certainement pas.
Sûrement pas. Et c'est bien ça qui est intéressant. C'est que comme ça n'a pas pu être consommé, que ça aurait probablement conduit de toute façon au désastre,
oui.
Parce qu'elle avait déjà deux enfants, elle a dit, enfin, je ne vais pas être trop lent là-dessus.
Oui. Je vais le lire parce que vous faites le bilan et vous dites, bon, ou des fois on passe à côté d'une catastrophe. Supposons, Mathilde, donc c'est Mathilde, l'amour de. Voilà. Mathilde cède. Stendhal devient son amant officiel. La politique et la police s'en mêlent. Le sieur Bell est prié de quitter Milan. Ils vont vivre à Paris avec les deux fils de Mathilde. Lui est plus ou moins ruiné après la mort de son père et sa rétrogradation dans l'administration. Il n'a pas d'emploi. L'amour-passion s'use vite. Elle dépérit, elle s'éteint, elle se reproche tout. Il se brûle la cervelle. L'impossible d'imagination, donc, était seul réel.
D'autant plus qu'il est, comme il est très intelligent, il se rend compte que cette expérience lui donne un autre corps. Entend, l'Italie, une Italienne, il était perdument amoureux. C'est comme si c'était inoculé une maladie spéciale qui lui ouvre les yeux, l'oreille, les paysages, etc. Et ça, c'est très intéressant. Autrement dit, il fait l'expérience que la passion amoureuse... Elle peut être satisfaite aussi, il n'y a pas de règle dans cette affaire. Mais c'est l'intérêt, c'est que ça donne un autre corps qu'on ne soupçonnait pas forcément à ce niveau. Et là, ça réclame la plus grande attention quand même. C'est-à-dire que oui, la rencontre amoureuse ou l'expérience amoureuse développe la vue, l'oreille. C'est-à-dire change le temps. Aller à un rendez-vous d'amour... C'est autre chose que d'aller à son bureau, quand même, non ?
Oui, mais on a l'impression, et le terme est juste, d'inoculer, c'est-à-dire on est presque comme s'envoyer une drogue dans les veines.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est une maladie. C'est une maladie, mais qui apporte des connaissances. Des connaissances. Et sans ces connaissances, la vie n'est pas vécue.
Alors, en plus, sans charger Stendhal, vous le dites embarrassé du sabre. C'est-à-dire qu'il avait aussi quelques embarras du côté de l'accomplissement de la chose.
Il est... Oui. Contrairement à Dominique Strauss-Kahn...
ce ne sont que des perches.
Non, mais je parle sous le coup de l'actualité, vous comprenez. Être réveillé par ce genre de nouvelles, ça marque une journée. Demain, on parle. Vous en avez pour un mois ou deux ou trois. Mais enfin, quand même. Mais enfin, vous savez, ce matin, à 7 heures du matin, bon, qu'est-ce que je disais? Oui. L'amour, vous direz, Stendhal, ou j'imagine, l'amour ne va pas sans dire. Et donc, c'est ce que les Anglais appelaient une magnifique expression pour les adultères. Il parlait de conversation criminelle. C'est joli.
Oui.
Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dit entre deux personnes. Et c'est une question de langage, beaucoup. Hein. Et par conséquent, ça n'est pas du tout boum, boum, tralala. C'est autre chose. C'est un enveloppement, c'est une autre invention. Le corps devient davantage langage qui ne le... soupçonné, etc. C'est pour ça que la musique... C'est pour ça que Mozart, Cecilia Bartoli me dit Mozart est le premier et probablement le seul qui a pu, dans tous ses personnages féminins, opéra, décrire toutes les positions féminines dans un sens ou dans l'autre. Avant l'opéra, c'était mythologique, etc. Mozart arrive... Così fan tutte, est sublime opéra. Et tout à coup, vous avez une révélation sur ce qu'on peut appeler la nature ou la substance féminine. Comme si, comme ça, furieuse, tendre, agressive, sentimentale, fausse, vraie, railleuse, ironique. Ouais. Vengeresse. Bon. Et tout ça, c'est une explosion de, c'est une explosion de vérité. Voilà. Donc, pourquoi Stendhal? Parce que c'est la même chose. Ces personnages féminins, dans la vie, il a eu des maîtresses très, 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 très agréables. J'ai eu un peu de Pietra Grouard, d'ailleurs, qui lui a fait une déclaration d'amour un jour. Voilà. Bon. Mais les personnages de femmes, vous prenez Madame de Rênal, ah, qu'est-ce que c'est bien dans le jour, dans le noir, le rouge et le noir. Vous prenez la Sanseverina, Clélia, dans la Chartreuse de Pape, c'est extraordinaire. Très peu de romanciers, enfin d'écrivains, arrivent à ces inventions, qui sont des inventions musicales. Vous savez que Stendhal adorait Mozart.
Oui, bah, il fait Mozart, Cimarosa, Shakespeare. Tu sais, par exemple, si on demandait, c'est les trois noms qu'il ferait graver sur sa stèle, Stendhal. Que ferait graver Solers comme les trois noms?
Je mettrais Homère, je mettrais Shakespeare, je mettrais Mozart.
Donc, ce Stendhal, vous le projetez aussi dans le temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quelqu'un avec qui vous seriez en conversation et vous lui racontez un petit peu l'époque. Pour voir un petit peu comment il réagirait, pour voir sa modernité. Quoi, en quelque
sorte. Oui, alors souvent, je lui soumets des trucs d'actualité bouleversants de vulgarité, et je vais lui demander ce qu'il en pense, mais là, il dort, en général. Voilà.
Oui, ben c'est sur la banque du sperme.
J'attire votre attention sur la banque de sperme.
Oui, c'est bon, danoise.
J'attire votre attention, si vous voulez.
C'est pas aujourd'hui, on va éviter de démultiplier tous les exemples. Donc on...
Oui, alors sachez que presque au début du livre, il y a des précisions très, très importantes sur le trafic des substances de reproduction.
Voilà, exactement. Alors, ce Stendhal, également, il y a quand même un concept, on le connaît pas trop bien, il est important peut-être de l'éclairer, en ce qui concerne l'amour-passion, c'est la cristallisation.
Alors, ça, on revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, le fait d'être ouvert à un surplus de sensations, de perceptions, l'être aimé, devient vraiment le moindre de ses déplacements, le moindre de ses regards, change la perception qu'on a de la nature tout entière. Bon, les arbres, les forêts, voilà, vous voyez, on rentre dans cet état de perception démultipliée. Et c'est ce qu'il appelle, d'un mot qui est célèbre, la cristallisation. C'est-à-dire que l'image est tirée de petites feuilles près des mines de Salzbourg, des mines de sel, où on met des branches d'arbres, et qui ressortent après comme des diamants. Ça a cristallisé. L'opération de cristallisation, c'est le fait que sur l'objet, qui n'est pas un objet, mais enfin l'objet dit aimé, on obtient tout à coup une telle importance, une telle myriade de sensations que ça peut être considéré comme un trésor. Cet être-là devient un trésor, vous comprenez, mais au sens très concret du mot. C'est-à-dire que c'est une sorte de joyau.
Et en même temps, je trouve que c'est un concept qui est encore plus puissant pour comprendre la décristallisation. C'est-à-dire le moment où, de la passion, on peut passer à rien. C'est-à-dire la décristallisation, c'est-à-dire de passer de la passion, de la cristallisation, à rien, presque instantanément.
Et oui. C'est là où, à plusieurs reprises, Stendhal évoque le fait qu'il a, eu au moins deux ou trois fois, ou quatre fois, la tentation de se brûler la cervelle, comme on dit élégamment.
Mais Philippe Solers aussi.
Bien sûr, mais on fait rien sans avoir. Oui, mais on fait rien sans avoir un peu de noir dans la pelle. Bien sûr. Alors, Régine va toujours ironiquement, parce que c'est jamais romantique de façon lourde. Il dit j'avais un pistolet chargé sur ma table, mais je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur de me faire mal. il y a quelque chose d'énorme. Il raconte que pour le suicide, il en parle avec un ami anglais. Il est à Londres. Ça fait des histoires. La police enquête et ça fait du discours. Alors il dit voilà, il y a une très bonne solution. C'est de partir en bateau un jour de gros temps et puis de disparaître en mer. Comme ça, ça fait une brève. Monsieur Stendhal, ou Belle, malheureusement, est tombé de bateau, il a disparu.
Ouais, comme Lord Chichester, ou comme dans Martin Eden.
C'est élégant, et à ce moment-là, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'indiscrétion, il n'y a pas voici, voilà, gala, c'est tout ce que vous voulez.
Voilà. Mais alors, et alors, sans indiscrétion, qu'est-ce qui a arrêté Philippe Solers?
Eh bien, je crois que je l'ai dit. C'est chaque fois des rencontres qui m'ont retenu. Avoir envie de vivre, je crois que c'est quand même... oui, c'est chez moi très, 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 très fort. La vie a quelque chose d'irrésistible.
Alors, je voudrais faire entendre votre voix sur un passage que j'aime beaucoup dans ce livre, qui est un passage peut-être qui résonne pour tous ceux qui lisent, qui aiment écrire, qui ont rapport avec la voix, et j'allais presque dire l'aventure de la voix. Ça se passe dans les grottes de Lascaux, enfin, c'est d'ailleurs à partir d'un souvenir personnel, je crois, ce passage de là jusque là. Il y a quelques lignes, mais j'aimerais que vous les lisiez.
Je dois dire que j'ai vu cette grotte à l'âge de 18 ans, avant qu'elle soit fermée parce que les êtres humains apportaient des microbes, et qu'avoir ressenti là un des plus grands chocs que j'ai eu de ma vie. Un choc sonore, justement, très étrange, les peintures. Alors ici, oui, les hommes du paléolithique chantaient lors de leurs cérémonies. Les peintures des grottes sont souvent exécutés dans des endroits presque inaccessibles, certaines salles étant situées à plusieurs kilomètres à l'intérieur. Cette peinture d'action devait servir de lien rituel entre le monde physique et les forces invisibles. S'il est inspiré, le voyageur du temps le ressent. Mais il y a mieux, le son dans les cavernes était d'abord une boussole. Dans l'obscurité souterraine, l'éclairage était faible et les torches inutilisables dans les boyaux. On se servait donc du son comme d'un sonar pour se déplacer et s'orienter. La voix allait et revenait, déchiffrant l'espace. Très souvent, il suffit de suivre la direction de la meilleure résonance pour arriver aux peintures. L'oreille sait où elle a quelque chose à voir. Ainsi, les points d'ocre à l'intérieur des boyaux correspondent au maximum de résonance. L'oreille voit. L'œil écoute, a dit Claudel, mais l'oreille voit. Voilà. Voilà le chemin, et au fond, quand on écrit, c'est pareil. Oui, ça marche au son, à la résonance, au fait que tout change dès qu'on entend. Ça aussi ?
Non, mais je peux le faire si.
Non. On avance, oui, merci. Ouais. On avance à tâtons, à l'aveuglette, on envoie la voix, elle résonne, elle fait parler le roc, on allume. Et c'est aussitôt la féerie des bisons, des chevaux, des bouquetins, des cerfs, la splendeur du monde en couleur. On entend d'abord, on voit ensuite. La peinture n'est pas une image, mais une sculpture en mouvement dans le son. Le mugissement spirituel de Lascaux traverse la terre et la roche, et c'est le ciel de la chasse, la sauvagerie ultra délicate de l'air. Ma voix devient un opéra d'avant le déluge, et dans le puits sacré, là-bas, près d'un bison blessé, un homme à tête d'oiseau affronte la mort. Je ne suis pas ressorti le même de cette plongée. J'avais volé non pas le feu, mais le son, grand vertige, souffle intense, un truc à la Jonas, des profundis clamavis. Ma main, un instant posée contre la paroi, m'entendait, elle m'entend toujours, Alors ça, il faut dire que Lascaux, une des sensations les plus étranges, ce sont ce qu'on appelle les mains négatives. Tu vois ça. Donc, parfois, il manque un doigt, je vois. Ça veut dire que une mutilation. Mais il y a des mains. Et ça donne une impression de grandeur. Et voilà, ce sont des signatures. C'est comme s'ils avaient entendu à travers leurs mains quelque chose, ou signé avec leurs mains, ou appelé. Bon, tout ça se passe il y a 25 000 ans. Et il y a un écrivain, un penseur, un seul, on est en 1955, après la grande dévastation européenne, qui a pensé quelque chose que je trouve alors là très très fort. C'est Georges Bataille. Georges Bataille, à deux années près, fait le premier livre sur Lascaux, où il est allé. C'est très émouvant de le voir, justement, entré dans la... C'est un livre qui m'a énormément influencé, jeune. Un livre sur Lascaux et, aux stupeurs, un livre épatant sur Manet. Être celui qui voit. Vous allez, y a-t-il un rapport entre les grottes de Lascaux et Manet? Mais aucun. Eh bien, si. Voilà. Et ça, c'est très émouvant parce que vous êtes sur des milliers d'années. Attention, vous êtes dans quelque chose. Picasso s'est rendu compte de ça aussi. Picasso refait sans arrêt pendant très longtemps le déjeuner sur l'herbe de Manet. Il veut comprendre ce qui se passe chez Manet. Ou qu'est-ce que Manet savait? Par où faut-il passer pour comprendre ce qu'il savait qui a donné cette peinture devant laquelle tout Paris se rassemblait pour cracher dessus? Heureusement que c'était un bourgeois avec de l'argent, Manet, vous savez, parce qu'il a tenu comme ça. Tout le monde l'insultait. C'était une injure permanente. À la fin, il ne voulait plus lire les journaux. Manet. Et donc, les bourgeois voulaient quoi? Ce que vous avez dans les restaurants parisiens, des nymphes. Des nymphes avec des perles, du kitsch. Cabanel, il s'appelle. Vous avez tout ça. On a essayé de remettre Manet au musée d'Orsay parce que pour remettre dans son époque, on le revissait. Il voulait ça ou alors c'était la misère. Et les femmes de Manet ont fait un scandale magnifique.
Voilà. Alors on va attendre avec impatience votre ouvrage sur Manet. Et en attendant, on lira ensemble.
Ce sera un roman, ce sera un personnage.
On lira Trésor d'amour. C'est chez Gallimard, Philippe Solers. Merci, c'était joli cette promenade dans votre grotte à vous. Et on remercie Philippe Solers.
Et je dis un grand merci à Daniel Picouli, que j'aime beaucoup, dont j'ai toujours apprécié l'écoute et la générosité, et dont j'espère qu'il va pouvoir continuer à prouver ce qu'il sait faire, un café, un bar, un établissement. Voilà. Merci, Daniel.
Merci à vous, et en tout cas, ici au brunch.